Bonjour et bienvenue à cette fort matinale première table ronde. Merci d'être présent. Je vous informe que nous allons en fait commencer de manière un petit peu atypique, puisque après avoir présenté nos intervenants, je ferai un petit signe pour qu'on commence un film qui a été préparé par Emmanuel Dubois et Natacha Vazder, qui est présente ici, que je vais présenter, et qui retrace d'une certaine manière la vie, l'existence virtuelle, télévisuelle notamment, de Michel Jeury. Donc ce sera l'occasion de faire entendre sa voix et de le voir et de se faire une idée à la fois de sa personnalité, ça c'est rien ça, et de sa persona littéraire. Donc, dans l'ordre aléatoire qui a été fait ici, toujours aléatoire, donc Gérard Klein, qu'on ne présente quasiment pas, hein, mais qui est encore un peu présentable quand même. Un des esprits de la science-fiction française, qui, pour la table ronde ici présente, parlera de Jeury comme de l'ami, mais aussi et surtout comme de l'auteur qu'il a contribué, enfin, qu'il a révélé avec la publication du Temps incertain dans la collection Ailleurs et Demain. Et c'est notamment cette synergie entre une collection et un auteur qui avait déjà fait ses premières armes, mais qui avait besoin là d'un soutien que nous questionnerons notamment tout à l'heure. Natacha Vazder, qui est universitaire, qui présente, qui s'occupe activement de la mémoire de Michel Jeury, notamment une des dernières publications, Les carnets chronolithiques de Michel Jeury, qui donc reprennent des textes de la main de Jeury, des textes plutôt, c'est plutôt le Jeury intime, voilà, c'est autobiographique, voilà, qui donc a consacré une partie de sa carrière, de ses recherches à Michel Jeury de manière extrêmement active, et notamment qui l'a accompagné dans finalement l'établissement d'un héritage dont nous parlerons tout à l'heure, avec notamment les amis de Michel Jeury. Mais voilà, nous aurons le temps d'en parler longuement. Et elle a notamment abordé Michel Jeury dans son ouvrage « Ces Français qui ont écrit demain », que vous pourrez retrouver tout à l'heure. Bon, voilà, nous en parlerons éventuellement s'il y a besoin. Raphaël Granier de Cassagnac, écrivain, également, il me semble, scientifique de haut niveau, mais ça n'est pas tellement ce qui nous intéressera aujourd'hui, hein, parce que sinon nous serions évidemment bien, bien vite perdus. Mais il est possible que c'est la réflexion sur la nature de la réalité et de la matière qu'il peut poursuivre dans ses travaux de physique, soit pertinent dans le cadre de nos réflexions sur justement les réalités fort mouvantes de Michel Jeury. Et donc, il est également écrivain, et sa série, son diptyque autour de l'éternité, Eternity en français dans le texte, est tout à fait... Alors, je le laisserai statuer sur la question, mais me semble pouvoir entrer en résonance avec l'œuvre de Michel Jeury de manière assez manifeste, mais je n'anticipe pas, pour une fois. Donc, Thinking Eternity, notamment, dernier ouvrage paru. Et enfin, Jacques Barbéry, qui est un écrivain, auteur d'une quinzaine de romans, d'une centaine de nouvelles, se revendique, me semble-t-il, de multiples influences, celle de Dick, de Ballard, de Borges, influence qui, je pense, pourrait aussi inclure, mais ça sera à lui de nous en parler, pourrait aussi inclure Michel Jeury. Ne fût-ce que par un compagnonnage d'écriture, puisque un certain nombre de réflexions justement sur la réalité et de représentations de réalité perturbée me semblent pouvoir être communes à ses œuvres et à celles et à celle de Michel Jury. Vous verrez quelques couvertures tournées, mais tout à l'heure dans le diaporama, mais je recommande notamment Le Crépuscule des Chimères que j'ai lu dernièrement, qui est assez fascinant, mais nous en reparlerons à l'occasion si cela s'y prête. Sur ce, nous allons donner la parole à Michel Jury, donc écouter et voir le petit film qui a été présenté, et nous reprendrons ensuite l'hommage après cela.
Michel Jury, un des plus grands auteurs de science-fiction, est décédé en janvier 2015. Originaire de Dordogne, c'est un écrivain du futur et du terroir. Voici des images d'archives où Michel Jury définit lui-même sa vision du monde et de l'anticipation.
Alors Michel Jury, merci d'abord d'avoir bien voulu quitter ici Jacques, le sud-ouest profond, pour venir nous rendre visite à Paris.
D'abord, un écrivain de science-fiction ressemble à tout le monde, c'est-à-dire que personne ne croit qu'il va mourir, c'est tellement théorique. Non, un écrivain de science-fiction ne pense jamais qu'il va mourir. Et puis, peu importe, je crois qu'on est écrivain de science-fiction si on est capable de se projeter au-delà de sa mort.
Je me suis demandé ce qui arriverait si un certain nombre de choses se poursuivaient, si l'évolution d'un certain nombre de phénomènes actuels se poursuivait, et en particulier la concentration capitaliste. Mmh. Et j'ai imaginé qu'en 2039, date un petit peu symbolique puisque c'est 100 ans après la déclaration de guerre, le monde était partagé, ou enfin la plus grande partie de la planète était partagée entre deux super multinationales, entre deux hypersystèmes, et que une fusion était sur le point d'avoir lieu entre ces deux hypersystèmes, et en réalité une fusion qui cachait l'absorption de l'un des hypersystèmes par l'autre.
Parce que finalement, les gens qui nous disent qu'un surgénérateur, les techniciens, la technostructure qui nous dit qu'un surgénérateur ne peut pas exploser, ce sont à peu près les mêmes gens, approximativement les mêmes gens qui nous disent qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans nos factures téléphoniques.
Le pouvoir est au centre d'une thématique, d'une opposition sagesse-folie, qui est elle-même au centre de la thématique science-fiction. Donc le pouvoir est au centre de la science-fiction, et comme le pouvoir est aussi au centre du monde, la science-fiction est au centre du monde, ce qui ne l'empêche pas d'être à la périphérie.
Vous avez dit un jour, effectivement, que la science-fiction, c'était le jeu du monde. Il y a une chose qui m'a également frappé dans la lecture du territoire humain, c'est la place que vous accordez à, justement, ce pouvoir alors qu'il devient absent. Les citoyens eux-mêmes se plaignent de l'absence de pouvoir. Ce n'est plus un pouvoir qui est oppressif par les pressions qu'il exerce sur les individus, mais au contraire parce qu'il n'est pas là.
Oui, les absents ont toujours tort. Et c'est quand le pouvoir est absent, ou paraît absent, qu'on s'aperçoit qu'il avait tort et qu'on commence à l'attaquer.
Mais le futur que je décris ne me semble pas du tout incroyable, et bon, s'il m'arrive d'écrire des histoires fantastiques et volontairement fantastiques, une bonne partie des récits de science-fiction que j'invente sont faits à partir de petits faits de la vie quotidienne, de petits faits de la réalité actuelle, et ils sont extrapolés à partir d'une réalité qui est déjà là.
Comme tous les romans réussis de science-fiction, Michel Jury nous propose dans Les yeux géants une théorie. Ici, il s'agit d'une théorie de la perception à laquelle vient s'ajouter un modèle d'univers qui donne, il faut le préciser, un éclairage, une lumière tout à fait nouvelle.
Il y a la peur de choses qui sont prévisibles actuellement, et la peur d'un fascisme mystique, beaucoup de mysticisme dans l'air en ce moment, ça peut aboutir à un fascisme mystique. La peur des surgénérateurs, tout part de l'explosion d'un surgénérateur en Union soviétique.
Et quelle imagination vous avez?
Je n'ai pas tellement d'imagination.
Doit vous intéresser l'imagination.
Je lis la presse.
Peut-être qu'il voit la réalité, n'est-ce pas, un petit peu simplement en avance. Au fond, ce qu'on appelle imagination, quelquefois, c'est simplement un certain don de voyance, de choses qui sont déjà dans le présent.
Est-ce que vous pourriez faire
une question ? Parce que là, j'ai lu ce livre avec énormément d'intérêt, parce que
c'est normal.
Vos monstres sont viables, mais au fond, il ne reste plus aux gens que leur imagination qui est branchée sur des ordinateurs. Ils n'ont plus aucun pouvoir, aucune réalité, etc. Et au fond, est-ce que c'est pas un peu ça lentement vers lequel on s'achemine. Enfin, est-ce que c'est d'une science-fiction pour dans 3000 ans ou dans un temps assez proche?
J'aime beaucoup m'inspirer des traces, de ce que j'appelle les traces du futur dans le présent, des objets qui amènent le futur à notre vie quotidienne.
Oui, la Terre serait un seul des un rameau parmi tant d'autres. Oui. D'autres terres parallèles.
Ça, c'est un des thèmes d'élection de Michel Jury. Et à travers la notion d'univers parallèle, nous découvrons la notion de pluralité de l'avenir, n'est-ce pas? L'avenir qui est présenté non pas comme une chose unique et unitaire, comme c'était le cas jusqu'ici, mais comme un rameau qui se divise et qui porte plusieurs arbres. Et absolument, nous pouvons aller là vers une définition de la prospective, ce qui est cette discipline qui s'interroge non pas sur l'avenir en tant que tel, mais sur les avenirs.
Alors, ce qui est important, c'est l'emballage, ou plutôt ce qui est écrit sur l'emballage. Made in one or more of the following countries. Alors, il y a la liste de tous ces pays: Corée, Hong Kong, la Malaisie, Singapour, Taïwan, Mauritius, la Thaïlande, l'Indonésie, Mexico, Philippines. Et puis, on arrive à quelque chose d'extraordinaire et qui est, je crois, vraiment une trace du futur dans le présent, une piste de ce que pourrait être l'avenir, quelque chose qui signale de façon très précise la planétarisation de notre monde. C'est la mention finale: the exact country of origin is unknown. Le pays exact d'origine est inconnu.
La technologie va transformer le jeu. Et je crois que les gens vont devenir moins passifs. Et il me semble que dans l'avenir, le cinéma, par exemple, pourrait fusionner avec les jeux de rôle. Les jeux de rôle qui sont une relative nouveauté, surtout en France, et où les joueurs sont extrêmement actifs. Eh bien, je crois qu'un jour, il y aura, c'est ce que je raconte dans Le Jeu du Monde, des jeux de rôle en grandeur réelle qui seront un mélange de cinéma et de jeu, et où les gens, au lieu d'aller voir le film, le joueront, seront, des figurants extrêmement actifs. Et cela, on le voit en gestation un petit peu partout.
Alors, on peut dire que vous avez abandonné l'univers de la science-fiction pour l'univers des histoires vécues en Dordogne.
Oui, c'est un retour aux sources. En fait, mon premier roman, il y a 30 ans de ça, était aussi un roman sur le Périgord. Et puis, je suis allé faire un tour dans l'imaginaire qui a duré une vingtaine d'années. Vous savez, le Périgord, c'est le pays des contes, et c'est pas tout à fait extraordinaire de me retrouver auteur d'histoires fantastiques.
Comme j'ai eu la première version de ce prix en 1974, ça fait 37 ans, la boucle est bouclée. Bon, ce serait bien, maintenant je peux partir à la première occasion.
J'en ai profité, et peut-être pas si mal que ça, pour contrer. D'ailleurs, c'est souvent dans des textes que l'on croit mineurs ou que l'on traite comme mineurs qu'on glisse, mine de rien, le meilleur de soi.
Bien, donc, comme vous avez pu le voir dans ce documentaire, les centres d'intérêt de Michel Jury ont été extrêmement divers, et puisqu'il est question aussi bien d'anticipation sur le capitalisme que de thématiques écologiques, donc nous verrons quelques images rappelant cela, un questionnement sur le devenir de l'humanité dans ces différents avatars. Une des choses qui n'apparaît pas, ça c'est un décalage obligé entre la réalité télévisuelle et la réalité de l'écriture, c'est finalement la thématique qui a le plus compté au début dans l'établissement de la réputation de l'écriture de Michel Jury. La thématique du temps et, du temps et de la chronolyse, dont nous allons avoir l'occasion de parler, mais cette chronolyse qui est une façon de s'emparer et de renouveler à sa manière une thématique très dickienne. La dette de Michel Jury envers Dick est évidente et assumée dès l'ouverture du temps incertain. Donc une thématique qui consiste finalement à supposer la possibilité de voyager dans un temps qui est à la fois un temps de l'imaginaire, mais aussi une espèce de dimension temporelle alternative. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est quelques quelques thématiques donc, qui ont déjà émergé. Mais avant de mentionner, avant de parler de l'œuvre et avant de revenir sur son parcours éditorial, puisque Michel Jury comme écrivain ne commence pas avec Le Temps incertain, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Je souhaiterais poser d'abord une première question ouverte, un peu dans la continuité de ce que nous avons vu ici, c'est-à-dire finalement que représente Michel Jury. Alors c'est une question très ouverte à laquelle vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Que représente Michel Jury pour vous, à tous les niveaux éventuellement. Alors Gérard, peut-être.
C'est très difficile de dire ce que représente un homme, un écrivain, et je n'hésiterai pas devant le terme un génie comme Michel Jury. Il a en tout cas représenté pour la science-fiction française et très accessoirement pour la collection Ailleurs et Demain que j'avais créée quelques années plus tôt. Ça a été une véritable bombe, c'est-à-dire qu'il a changé la conception que les Français, le lecteur français de science-fiction pouvait se faire de la science-fiction. Ça, je crois que ça a été... Je ne sais pas si c'est le lieu ici de rappeler dans quelles circonstances je l'ai publié. Je ne le connaissais pas du tout. Nous avons dû nous croiser à l'époque du Rayon Fantastique et du Prix Jules Verne, mais nous nous sommes croisés sans nous être reconnus. Et j'ai reçu par la Poste, ce qui prouve que la Poste fonctionne bien, un jour un manuscrit, j'ai reçu chez Robert Laffont, qui était celui du Temps incertain. Je l'ai lu dès que j'ai pu, ce qui a tout de même pris un certain temps, parce que j'étais, à l'époque, j'avais en dehors de la collection, qui était un à côté, plutôt un hobby, j'avais des fonctions d'économiste, si bien que ce pauvre Michel a attendu un certain temps une réponse. Je frémis en pensant aux angoisses par lesquelles il a pu passer, tant que je crois que certains de ses manuscrits avaient pas mal traîné dans des maisons d'édition pour lui être retournés ou sans qu'il en entende plus jamais parler. Alors en fait, je lui ai envoyé une lettre qui, paraît-il, est un document historique exposé dans de hauts lieux lui confirmant, enfin lui indiquant moi, toute mon admiration pour ce roman et lui confirmant donc qu'il paraîtrait tel quel très rapidement, d'ailleurs dès que ce serait possible. Et alors, ce qui est intéressant, ce qui prouve mon aveuglement, c'est que je ne me faisais pas de Michel Jury une représentation convenable. Comme je travaillais moi-même à l'époque pour une filiale, enfin en fait pour la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire indirectement pour le ministère de l'économie, et je travaillais en particulier plus ou moins autour de Bruxelles sur le thème des transnationales, des multinationales, enfin de l'extension de ses pouvoirs. À la fois inquiétant et inévitable, si bien que quand j'ai lu Le Temps incertain, qui projette ce genre de préoccupation dans un avenir assez proche, j'ai été convaincu que ça avait été écrit par quelqu'un qui devait naviguer à peu près dans le même environnement que moi, que je connaissais même peut-être, et qui avait choisi un pseudonyme, et une adresse de vacances, une adresse d'Issijac, pour mieux se camoufler. Et ça, j'étais d'autant plus porté à le croire que chaque fois que je demandais à l'auteur des précisions sur sa vie, son activité, enfin et tout le reste, il me répondait de façon extraordinairement évasive. Exactement ce que j'aurais fait si on m'avait demandé de donner des précisions sur certaines de mes activités. Donc je m'enfonçais dans une conception de Michel Jury un peu singulière. Et puis, avec le succès du livre, des lecteurs sont allés faire le voyage qui est devenu le pèlerinage d'Issijac, et ils sont revenus en me rapportant une histoire très étrange. C'était Michel Jury, était pas du tout un haut fonctionnaire, ou un grand banquier, c'était un petit paysan et même un ouvrier agricole qui vivait de façon assez misérable dans une maison couverte de des lauzes. Ce sont des espèces d'ardoises très grossières, des tuiles d'ardoises très grossières. Alors, le livre est paru en 1973. En 1974, je crois, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis descendu à Issy-Jacq, et j'ai commencé par découvrir la mère de Michel Jury, qui était un personnage tout à fait étonnant, une toute petite femme, ridée comme une pomme, et qui déployait une joie. En fait, elle m'a accueilli à peu près comme le Messie, et surtout elle m'a raconté, Michel était parti, il est peut-être au champ, enfin je ne sais pas encore, mais il n'était pas là, il est arrivé à peu près une heure après. Pendant ce temps-là, elle m'a longuement parlé de son fils, et elle m'a dit, oh monsieur Gérard, vous ne savez pas ce que vous lui avez fait. Le jour où il a reçu votre lettre, il est rentré très déprimé des champs, en me disant, maman, j'ai perdu mon couteau. Et il a ouvert la lettre, il l'a lu, et il lui a dit, tu sais, maman, je crois que je vais pouvoir me racheter un couteau. Et ensuite, nous sommes devenus de grands amis, enfin, et puis j'ai continué à le publier. Enfin,
nous reviendrons effectivement sur cette aventure éditoriale. Natacha Vinsder, quelques mots effectivement sur ce que représente Michel Jury.
Oui, alors moi j'ai rencontré Michel Jury comme Raphaël peut-être. On l'a rencontré en fait tardivement. Ma première rencontre avec Michel Jury, c'était donc aux Rencontres de l'Imaginaire en 2010. Et bon, le hasard a voulu que pour le dîner du soir, je me suis retrouvée à côté de lui. Je n'avais absolument pas osé aller le voir ou très très brièvement dans la journée pour lui faire signer Escale en Utopie, qui était le nouvel opus paru chez Bragelonne, des rééditions. Et pendant la soirée, j'ai vu qu'il était très fatigué parce qu'en 2010, Michel Jury commençait quand même à souffrir donc de ses problèmes cardiaques. Il était fatigué, et puis je savais évidemment qu'il venait de Dordogne. Ma grand-mère était également de Dordogne, et on a commencé à parler tout simplement de la Dordogne, d'Aimé, d'Issy-Jacq. Et à ce moment-là, j'ai vu son visage s'éclairer totalement. Et c'est là que j'ai compris, enfin ça je l'ai compris peut-être a posteriori, mais j'ai compris que Michel Jury, alors Gérard a parlé bien sûr de Michel Jury qui était un paysan, mais le terroir, la terre avait une importance capitale pour Michel Jury. Ça je l'ai compris en le rencontrant. Et ensuite, une véritable amitié s'est installée. Alors, une amitié, certes, un petit peu tardive. Mais voilà, j'espère qu'avec tout ce que nous avons finalement organisé par la suite autour de son œuvre, et pendant, bien sûr, qu'il était encore là, parce que je crois que ce qui était important, c'est qu'il voit... Michel Jury, c'était quelqu'un de très modeste et qui ne comprenait absolument pas que nous puissions déployer autant d'énergie pour finalement valoriser son œuvre, faire le lien avec Issy-Jacq, que son village d'Issy-Jacq, qu'il avait quitté quand même depuis quasiment une bonne trentaine d'années, eh bien, veuille lui rendre hommage, etc. Voilà. Donc, c'est là que j'ai découvert finalement, puisque là, c'est le premier élément de la table ronde, j'ai découvert un homme qui était d'abord très attachant, très modeste et en même temps d'une intelligence absolument fulgurante. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter de, par exemple, qu'il aimait bien aller aux champignons et puis qu'il aimait bien se promener dans les bois, etc. C'était un grand marcheur. Hein. Moi, je lui dis, mais Michel, vous êtes dans la tradition des écrivains grands marcheurs de la littérature française, hein, des gens comme Jean-Jacques Rousseau, par exemple, ou comme Victor Hugo. Alors ça le faisait beaucoup rire, évidemment, parce qu'il ne s'imaginait pas du tout pouvoir être comparé à ces grands auteurs-là. Et puis, tout d'un coup, il avait une réflexion. Comme vous l'avez vu un petit peu d'ailleurs, je crois, dans ces extraits d'émissions, où il était capable d'avoir une profondeur et une vision sur le futur absolument extraordinaire. Voilà. Et Michel Jury, c'est vraiment un écrivain que l'on peut situer. Alors lui-même, il disait « Je suis un écrivain qui a la tête dans les étoiles ». Forcément, ça, c'était le côté science-fiction, bien sûr. Et les pieds sur la terre, parce qu'il n'a jamais véritablement quitté la terre, quitté... Alors, il a quitté son terroir initial, puisqu'il est né donc en Dordogne. Et ensuite, évidemment, il a quelques années plus tard, hein, donc à peu près arrivé à la cinquantaine. Donc, ils sont partis avec sa femme Nicole et sa fille Dani. Ils sont partis donc à Anduze, dans les Cévennes. Autre terroir, autre rencontre. Et c'était aussi, évidemment, le début de sa carrière donc d'écrivain régionaliste. Voilà. Parce que ce qu'on va dire ici, c'est que Michel Jury, évidemment, nous évoquons le Michel Jury de la science-fiction, parce que ça nous fait plaisir et parce que, bien sûr, nous sommes aux Utopiales. Mais Michel Jury, c'est aussi une très grande carrière dans la littérature générale et dans la littérature donc, de terroir, la littérature régionaliste. Il a reçu des prix, il vendait beaucoup, beaucoup de livres. Et d'ailleurs, c'est Gérard qui, à partir de la fin des années 80, toujours chez Robert Laffont, hein, il sera publié aussi chez Robert Laffont pour ses romans de terroir, eh bien, va lui présenter, donc, je crois, Jacques Pushmore, qui était à cette époque une sorte de chef de file, en quelque sorte, de la littérature donc, de terroir. On pourrait citer, par exemple, Michelet, Signol, à cette époque, qui avait beaucoup de succès. Voilà, et Michel est complètement rentré, finalement, dans cette deuxième carrière, d'abord parce que, évidemment, ça lui a permis de vivre beaucoup mieux, et ensuite parce que je crois que ça lui correspondait. Alors, bien sûr, le monde de la science-fiction a un petit peu vécu cela comme une trahison, mais même lui est culpabilisé quand même. Mais bon, voilà, je veux dire, une carrière d'écrivain, ça se gère aussi. Et donc, il a effectivement mené cette carrière-là que le public de science-fiction ne connaît peut-être pas suffisamment. Et justement, dans les derniers écrits que nous avons publiés avec Richard Comballeau, ce sont donc ses derniers textes autobiographiques. Et Michel revient, mais alors longuement, il explique justement cette espèce de carrière, je dirais, dichotomique, hein, voyez, avec ces deux carrières donc en parallèle. Et il explique cela très bien, et je crois qu'il voulait, à un moment donné, il nous l'a dit, hein, je crois que c'était en novembre ou en décembre 2014, donc c'était vraiment à l'extrême fin de sa vie, il voulait absolument que ce soit publié pour que, justement, ces deux lectorats puissent avoir une réponse, justement, sur cette espèce d'énigme qu'a constitué cet écrivain qui a eu deux carrières. Voilà.
Alors justement, oui. Raphaël Granet-Cassagnac, c'est peut-être cette jonction, ce double visage, cette double rencontre pour vous que vous pouvez évoquer ici.
Oui, oui. Bon, c'est difficile de rajouter des choses sur ce que Natacha et Gérard ont dit, mais non, si. Pour répondre à ta première question, pour moi, il représente une vision, en fait. Je pense qu'il avait vraiment une vision extrêmement complète du monde. Et c'est ça qui fait que depuis sa campagne, il est capable de bluffer un économiste sur sa vision du futur économique. Et ça, c'est extrêmement rare et précieux. Et je pense que ça fait de lui un des meilleurs auteurs de science-fiction qui soit. Ça me paraît clair. Après, moi, je ne l'ai jamais rencontré, en fait. Je l'ai découvert encore plus tard que toi, Natacha. Et de façon complètement conjoncturelle. Moi, je suis né l'année du temps incertain. Et j'ai essentiellement commencé à lire de la SF francophone quand lui, il a arrêté. Alors, pas arrêté complètement, mais... Donc il était passé complètement en dessous de mon radar pendant très longtemps. Et puis la Volte, pour ses 10 ans, nous a commandé, Jacques aussi a une nouvelle dans cette anthologie, un texte de science-fiction qui s'inscrit dans une région de France. Alors quand j'ai reçu l'appel, je me suis dit, oh là là, c'est compliqué ça, qu'est-ce qu'on va faire? Moi qui suis très très parisien en plus. Et puis donc j'ai ma belle famille en fait du Périgord. Je me suis dit, allez, je prends le Périgord, puis je verrai bien ce que je vais faire. Je ne connais pas particulièrement bien la région non plus, enfin par l'intermédiaire de ma belle famille. Je vais sur Wikipédia, je regarde le Périgord, et puis je vois en bas, la page n'est pas si longue que ça, en fait, et en bas, il y a marqué Michel Jury, auteur de science-fiction. Je m'engouffre dans cette brèche-là, je m'intéresse au bonhomme, je lis tout ce que je peux à droite à gauche, je commence à lire un premier bouquin très tard, hein, et petit à petit, je comprends que je vais réussir à parler de Michel dans ma nouvelle. J'envoie un petit mail à Gérard pour lui demander de préciser un petit peu l'histoire que tu viens de raconter sur votre rencontre à ici Jacques et qui est que je me suis permis très prétentieusement de mettre dans ma nouvelle. Donc je mets en scène Gérard et Michel. Et d'ailleurs, dans ma nouvelle, vous avez fait une grosse bêtise, hein, parce que vous inspirez des gens qui, vous nourrissez l'imaginaire d'entités. En imaginant tous les futurs possibles, et ils se disent, parmi tous les futurs possibles, celui qui a choisi l'humanité, c'est bien le pire, donc on les élimine. C'est ma conclusion.
Donc la nouvelle, faites demi-tour dès que possible, c'est ça?
Ouais, c'est dans l'anthologie, faites demi-tour dès que possible. Et la nouvelle s'appelle La Mort Noire, si je me souviens bien. Et donc voilà, et donc je visite ma belle famille pour et j'en profite pour écrire cette nouvelle dans l'environnement, si on veut dire. Et puis j'en discute avec ma belle-mère. Et puis elle me dit mais je connais ce nom, hein, Michel Jury, ça me dit quelque chose. Et puis dans la bibliothèque de ma belle-mère, il y avait une partie des bouquins de terroir de Michel. Donc la boucle était en quelque sorte bouclée. Et j'ai trouvé ça absolument hallucinant que quelqu'un réussisse comme ça à faire le pont entre moi, très parisien, très, très tourné vers le futur d'aujourd'hui, qui n'est pas le futur des années 70 et tout ça, et cet endroit qui pour moi est très cher à mon cœur également, et je trouvais fantastique que quelqu'un 40 ans avant réussisse à faire ce pont comme ça entre les deux. Donc pour moi, c'est vraiment cette vision absolument complète du monde qui inclut la Terre et le futur proche et lointain que je trouve fantastique, quoi.
Merci. L'expression « la boucle est bouclée » revient beaucoup. Et je me demande si l'image du cercle, alors l'orbe et la roue, bien sûr, mais si l'image du cercle concentrique, parfois hypnotique, ou du labyrinthe circulaire, pourrait pas bien servir à décrire un fil d'Ariane, si j'ose dire, dans les thématiques de Michel Jury. Mais nous n'allons pas explorer ça pour l'instant. Jacques Barbéry, quelques mots sur ce que peut représenter Michel Jury pour vous, comme homme,
moi,
comme auteur.
Moi, avant tout, c'est le choc lié à la lecture du temps incertain, je veux dire. Pour moi, j'ai lu ce bouquin à une époque où je commençais moi-même à écrire, à mes débuts, et ça a vraiment été... j'ai été fasciné à la lecture de ce livre. Pour moi, il fait partie peut-être des 3-4 livres qui m'ont le plus marqué, avec les premiers bouquins de Dick, Le Dieu venu du Centaure, et les romans de Ballard, comme là, Le Monde englouti ou La Forêt de Cristal. J'ai eu un choc, et c'est ça, je crois que ça a orienté carrément ma vision d'auteur, quoi. Ça a été vraiment fondamental, quoi. Sinon, l'homme Jury, je le connaissais en fait très peu. Je l'ai rencontré une fois en 1974 à la Convention de Grenoble, où je crois qu'il avait eu le prix pour Le Temps Incertain. J'avais juste publié une petite nouvelle et j'ai pas osé aller le voir, quoi. Je le regrette aujourd'hui. Et après, je l'ai revu encore une fois et puis ça a été terminé. Donc en fait, malheureusement, alors que l'auteur me fascine, je ne le connais presque pas, quoi.
Justement, parlons de l'auteur, parlons de l'écrivain et parlons de sa voix particulièrement importante pour la science-fiction française, en particulier dans les années 70 et 80. Mais on peut peut-être rappeler avant tout qu'il avait écrit d'abord deux romans de science-fiction, La Machine du Pouvoir et Les Étoiles du Destin, ou Aux Étoiles du Destin, Aux Étoiles du Destin, et que ces deux romans parus simultanément en 1960 avaient, même si bon, ils n'ont pas fait un tel impact que Le Temps Incertain ensuite, ils avaient quand même fait bonne impression à l'époque. Il y avait eu une petite polémique sur la manière dont il avait sur la reprise entre Aux Étoiles du Destin et Ceux de Nulle Part de Francis Carsac, mais petite polémique assez peu justifiée, mais qui révélait surtout une chose importante, c'était que ces romans-là, il les avait portés longtemps. Et qu'il se trouve qu'ils ont été publiés en 1960, mais en fait ce sont des romans des années 50 pour l'essentiel, d'après ce que je sais. Dans ces deux romans-là, il y avait déjà, et je pense surtout à La Machine du Pouvoir, il y avait déjà cette réflexion sur un avenir technocratique, un avenir dans lequel l'être humain n'était plus tout à fait sûr d'avoir sa place. Et en un sens, c'est une partie des réflexions qu'il a continuées. Et donc ce que je vous propose là, c'est d'évoquer à votre gré, enfin, selon vos lectures et vos préférences, les thématiques qui vous semblent les plus frappantes, les plus essentielles pour Michel Jury, pour nous faire justement plus une meilleure idée de sa voix d'écrivain.
Excuse-moi, mais ce que j'aimerais dire un mot avant peut-être qu'on aborde cette thématique, alors excuse-moi si je bouleverse ton admirable plan, sur l'accueil qu'il a reçu. Parce que s'il a reçu vite un accueil plutôt enthousiaste, et même vraiment enthousiaste de la part du public de la science-fiction, il a reçu un accueil plus que mitigé de la part des critiques et du public de la littérature dite générale. Nous pensions que dès Les singes du temps, il aurait dû pouvoir obtenir des critiques, en tout cas, d'autant que la collection Ailleurs et Demain, et volontairement, malgré sa couverture un peu flamboyante, n'était pas marquée science-fiction, space-opéra. Enfin, bon. Or, l'accueil a été absolument nul. Alors, chez Lafon, nous avons décidé de faire autre chose. Nous avons sorti le troisième tome, Soleil chaud, poisson des profondeurs, sous la couverture jaune des romans habituels, des romans de chez Lafon. Et c'est cette édition que nous avons envoyée à toute la critique, plus de 300 exemplaires, à toute la critique française réunie, et qui n'a rien fait. Et nous avons, comme j'ai quand même pas mal de relations dans ce milieu, nous avons découvert que ces bouquins, mystérieusement, s'étaient retrouvés dans la boîte du malheureux qui était chargé de la science-fiction et autres littératures inacceptables. Donc il y a eu ça n'a pas pris. Et il y a un autre signe qui est intéressant. C'est que ce qu'écrivait Michel Jury, en partie au moins en connaissance de cause, se rapprochait beaucoup du nouveau roman de l'époque. Or, il est paru une étude à peu près exhaustive du nouveau roman, où deux auteurs qui me paraissent importants et qui s'en rapprochaient sont absents, Daniel Drod pour Surface de la planète, et Michel Jury pour plusieurs de ses romans. Donc ça a été, je ne dirais pas que c'était une ignorance volontaire, mais en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de curiosité pour aller voir. Dans l'autre aspect, c'est que quand il est passé aux romans dits de terroir, et qui sont de très grands romans, enfin pour ceux qui ne les auraient pas lus ou n'en auraient pas lus, je recommande entre autres « La grâce et le venin », qui est un très très grand livre. L'accueil initial fait à ces romans de terreur, je veux dire quand même, je ne sais plus exactement quand, c'était en 81, enfin quand il était encore dans la science-fiction, on a passé des vacances ensemble à Issy-Jac, et j'étais inquiet pour son avenir parce que la science-fiction, il avait un public, etc. Mais enfin, ça ne lui aurait pas permis longtemps de vivre décemment. J'étais vraiment inquiet pour son avenir à long terme. Dans l'immédiat, ça allait. Mais enfin, il s'était marié, il avait une petite fille, donc il avait d'autres charges. Et j'ai compris à ce moment-là à qui il allait, j'en ai fait état d'ailleurs dans le livre d'or qui lui est consacré, j'ai compris à ce moment-là qu'il allait s'orienter différemment. Et il a commencé donc à écrire ses romans de terroir. Seulement chez Lafon, ils ont été publiés chez Lafon, par Pushmore, qu'il connaissait d'ailleurs depuis longtemps, puisque Pushmore était un peu la cheville ouvrière de toute la maison Lafon. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le premier titre qu'il a publié chez Lafon a fait moins de 10 000 exemplaires. Je ne peux pas vous dire exactement le chiffre, je l'ai connu, mais j'ai oublié. Enfin, ça n'a pas été très glorieux. Mais il s'est trouvé qu'un des éditeurs du club de livres, du grand livre du mois, si je ne me trompe pas, s'est pris de passion, à juste titre d'ailleurs, pour ce livre, et qu'au grand livre du mois, brusquement, ça a fait 150 000 exemplaires. Et c'est intéressant parce que le public du grand livre du mois était un public plutôt provincial, plutôt âgé, assez... Si bien que Michel Jury, qui venait de l'avant-garde de la science-fiction, s'est brusquement retrouvé en grande sélection, la coqueluche du grand livre du mois et ses lecteurs. Et ça s'est poursuivi pour de très nombreux livres de terroir qui ne faisaient pas des chiffres terribles en première édition chez Lafon. Ça croissait quand même, enfin, c'était pas très important, mais qui faisaient des centaines de milliers d'exemplaires au club. Ce qui lui a permis de sortir définitivement de l'ornière, et je me suis trouvé rassuré quant à son avenir. Bon, j'ai un peu bousculé.
Je t'en prie. Justement, Jacques Barbéry, on évoquait le temps incertain. Est-ce que vous voulez parler un petit peu justement de cette relecture, enfin cette réinvention des thématiques temporelles par...
Oui, alors ce que bon, alors effectivement, il y a toujours une référence à Dick derrière, mais ce qui est intéressant, je trouve, en plus chez Jury, c'est qu'on en parle beaucoup moins, c'est l'aspect formel, en fait. C'est l'écriture, c'est-à-dire que Jury travaille énormément l'écriture. Il y a un travail stylistique qui est très très fort et qui est totalement tributaire du résultat final de la perception de ce que Jury veut faire passer au niveau de la chronolyse. Il y a une synthèse de la forme et du fond qui est, je trouve, parfaite, quoi, dans Le Temps Incertain, dans Soleil Chaud, Poisson des Profondeurs, peut-être un petit peu moins dans Les Singes du Temps. Et c'est ce qui, à mon avis, le différencie de Dick, quoi. Alors c'est peut-être cette association au nouveau roman.
Oui, il y avait effectivement une ambition, voilà, de type nouveau roman.
Une ambition formelle. Et il cite même, dans une interview, j'ai vu, il faisait une référence à Marguerite Duras. Alors c'est quand même pas mal, parce que bon, Dick Duras...
Il y a aussi une perturbation du temps chez Duras.
Oui, tout à fait. Oui. et moi, c'est ça qui m'a fasciné à la lecture de ce bouquin, quoi. C'est cette synthèse entre la forme et le fond qui était pour moi parfaite, quoi. Et qu'on ne trouve pas toujours chez Dick. La thématique dickienne est certes extraordinaire, mais bon, le style est beaucoup plus simple. Il ne s'attarde pas sur l'aspect stylistique. Voilà, donc c'est ça.
Justement, cette alliance de la forme et du fond, peut-être, Natacha.
Oui, alors en fait, elle se situe à deux niveaux, ce travail-là, pour reprendre les propos très justes de Jacques. Alors d'abord, Michel travaillait énormément, le lexique. C'est-à-dire que quand vous lisez un roman de Michel Jury, roman de science-fiction, hein, s'entend, vous avez une véritable invention lexicale avec tout un tas de néologismes, des acronymes, des néologismes, des termes qui sont complètement nouveaux, complètement singuliers, et alors qui emmène le lecteur dans un univers vraiment assez extraordinaire. Daniel Rode avait essayé de faire ça aussi un petit peu dans Surface de la planète, mais je dirais que c'était quand même très différent. Michel Jury était dans une autre dimension par rapport à ses recherches formelles. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire chez Michel Jury. Et la deuxième perspective de ses recherches formelles, c'est par rapport au récit. Parce que, bon, pour être très simple, au lieu d'avoir finalement, un déroulement chronologique de l'histoire, eh bien, Michel Jury prend finalement des moments de l'histoire, de son histoire, et il va les mélanger. Ce qui veut dire que le lecteur, et c'est pour ça d'ailleurs que la lecture du temps incertain, comme la lecture de certains nouveaux romans, hein, que ce soit Butor par exemple ou Robe Grillée, est un petit peu difficile quand même, parce que finalement le lecteur est obligé véritablement de travailler. Parce que quand vous lisez Le Temps incertain, alors si vous êtes un lecteur, assez entraîné, ça peut aller, mais un lecteur lambda peut être effectivement totalement dérouté, parce que du coup, vous ne savez pas du tout où est-ce que vous êtes dans l'histoire. Et alors, dans Le Temps incertain, on est finalement sur trois séquences narratives temporelles différentes, et dans trois consciences de trois personnages différents qui se situent dans trois dimensions temporelles différentes, voyez. Et Michel Jury arrive à croiser ça grâce à cette technique narrative qui fait qu'on a affaire à un récit qui est littéralement éclaté, et non pas un récit linéaire, un récit chronologique. Voyez, donc ça, c'est vraiment, je dirais... Alors, après, bon, il a quand même un petit peu abandonné cette technique-là. Pas la recherche, justement, lexicale, mais vraiment... Les trois premiers romans de Michel Jury et Les Singes du Temps, par exemple, je trouve que c'est un de mes romans préférés, parce que même s'il n'a pas très bien marché auprès de la critique, c'est un de mes romans préférés, justement parce qu'il y a une véritable construction, narrative de ce roman qui est absolument extraordinaire. Et une fois que vous prenez au jeu, parce que finalement c'est quand même un jeu intellectuel, vous arrivez à finalement totalement intégrer cette recherche formelle de Michel Jury.
Je voudrais, sur le plan lexical, qui est donc dans le néologisme, est extraordinairement bien trouvé dans ces œuvres de science-fiction. Ce plan lexical, cet aspect lexical réapparaît dans ses romans de terroir, évidemment pas sous la forme de néologisme, mais sous la forme de la récupération de termes anciens qu'il réintroduit avec un génie extraordinaire, si bien que le lecteur est supposé ne pas s'en apercevoir. Donc, il n'écrit pas façon paysan, il n'écrit pas façon vieux, comme certains très grands écrivains d'ailleurs ont essayé de le faire. Il réemploie simplement de vieux termes. Et il s'est toujours beaucoup intéressé à des documents anciens, en particulier à des documents scolaires. Il a d'ailleurs publié, j'ai oublié le titre du bouquin, mais il a d'ailleurs publié une espèce de description, enfin, des manuels scolaires de la fin du 19e siècle. Donc, elle se soucie du mot, non seulement juste, mais du mot bien situé dans le temps. Il l'a manifesté, alors, d'un bout à l'autre de son œuvre.
Raphaël Granit,
je vais rebondir sur deux choses, ce que tu viens de dire. Par exemple, chronolyse, c'est un de ces néologismes qui est si bien trouvé et qui est si évident que tout le monde retient très facilement. Et parce que quand tu parlais des néologismes, ouais, y a pas mal d'auteurs de science-fiction qui font des néologismes. Il y en a même, c'est même quasiment un exercice obligé du genre. Mais souvent, c'est raté, enfin, de mon opinion. C'est-à-dire, on a besoin de mots nouveaux quand on écrit de la science-fiction. C'est assez normal. Mais souvent, ça tombe pas juste. On se souvient souvent pas des mots des néologismes de pas mal de romans de science-fiction qu'on lit. Là, dans le cas de Michel, je pense que ça tombe toujours impeccable. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur le fond et la forme. Je crois que je l'ai entendu dire dans un entretien avec toi que pour le temps incertain, il voulait faire un nouveau roman avant tout, que c'était pas forcément de la science-fiction au départ. Et donc, en fait, la forme, dans une certaine mesure, primait sur le fond dans l'intention initiale. Et que, en réfléchissant, il s'est imposé à lui que la meilleure façon de faire un nouveau roman, c'était de faire un roman de science-fiction, parce que ça justifie en fait la forme du nouveau roman. Et ça, je trouve que c'est une chose absolument géniale de sa part.
En ce qui concerne cet aspect nouveau roman, je crois d'ailleurs, mais je ne suis pas absolument formel, parce que je ne suis pas complètement sûr, qu'il a bel et bien proposé à Minuit, ou en tout cas à des éditeurs très peu nombreux qui étaient concernés par le nouveau roman, soit un projet, soit un manuscrit, qui lui a été retourné sans... Alors à ce moment-là, il a donné la tournure science-fiction, puis il est tombé sur un malheureux, moi en l'occurrence, qu'il a accepté d'emblée.
Et en un sens, on peut dire que Michel Jury a aussi, de ce point de vue-là, je pense à la chronolyse, a servi un petit peu de filtre aussi par rapport à la vision de Dick. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une dette de Jury envers Dick, mais en un sens, je crois que même s'il avait été reconnu comme un auteur frappant assez rapidement, à partir notamment de Ubik, 1970, je pense que la présence d'un Jury qui était capable de s'approprier de ces thématiques et les renforcer et les explorer dans d'autres dimensions, ça a énormément fait, à mon sens, pour l'intérêt pour Philippe Dick en France. C'est-à-dire que je crois que, en ce sens, il y a eu une sorte de collaboration, enfin de convergence entre ces deux auteurs, ces deux figures, qui ont été toutes les deux assez frappantes et simultanément... Bon. Alors, j'aimerais, de ce point de vue-là, évoluer un petit peu, enfin, nous faire évoluer à partir du temps incertain et en venir à, disons, une vision un peu plus élargie de toutes les choses que Michel Jury a pu aborder. On l'a vu dans le documentaire tout à l'heure, c'était quelqu'un qui avait un sens aigu des enjeux écologiques et technologiques de l'époque. Qui, pour autant, n'était pas un écologiste à proprement parler. C'était quelqu'un qui simplement défendait un certain nombre de visions, d'anticipation, qui avait forcément partie liée avec un questionnement à l'époque social et écologique. Je ne sais pas si
vous voulez... pour l'écologie, Michel Jury avait vraiment quand même une... Enfin voilà, ce que tu as dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ce n'était pas un écologiste convaincu, je pense, parce que Michel Jury, c'était quelqu'un qui était d'origine paysanne, donc pour lui, le rapport à la nature était, parfaitement logique, et donc lui, l'idée, c'était de... Voilà, préserver la nature, mais il ne le voyait pas du tout, comme une théorie ou comme quelque chose de totalement artificiel. Alors, il y a, je pense, une nouvelle et puis un petit documentaire qu'a fait Michel Jury, parce que ça va me permettre de l'évoquer très, très rapidement. Donc, la nouvelle, c'est une nouvelle qui s'appelle Cochonville, alors qui est évidemment un titre totalement évocateur. Et dans cette nouvelle, eh bien, Michel Jury raconte comment est-ce qu'on pourrait justement créer une énergie énergie renouvelable à partir donc des déchets évidemment issus des voilà issus des cochons. Et donc ça c'est quand même totalement, on est donc dans les années, je crois que c'est 1975 ou 1976, on est évidemment c'est quelque chose de totalement novateur. La deuxième chose, c'est que Michel Jury a tourné donc un petit film de Jacques Manlé qui s'appelle Hobson 24. Alors c'est à la fois, je dirais, ce qu'on appelle un petit peu un docu-fiction, un petit peu documentaire et en même temps donc une fiction, où il évoquait la création de ce qu'il appelait les Hobson, qui sont des sortes de zones préservées à la campagne pour l'eau, pour justement la terre qui ne serait pas polluée et pour l'utilisation donc d'énergie renouvelable. Et quand vous avez vu donc la croix de Michel Jury, hein, 1934, donc 2015, eh bien cette croix, justement, est juste à la fin donc, de ce documentaire donc de Hobson 24. Hobson 24, 24, évidemment, grâce au Périgord. Et donc, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que Michel Jury aurait rêvé de faire une carrière de scénariste. Il a tourné donc en tant que figurant dans des téléfilms. Plusieurs de ses écrits, notamment les écrits de Terroir, ont été, enfin, ou non, qui étaient, je vous dis des bêtises, pas de Terroir, donc deux romans qui étaient donc La gloire du certif, qui ont été donc dont le sujet était sur l'école, eh bien ont été repris finalement, c'est le dernier certif aussi, ont été repris donc sous des formes télévisuelles par FR3. Voilà, et donc ça c'est un travail qui plaisait énormément à Michel Jury. Malheureusement, il ne vivait pas à Paris, donc c'est très difficile d'avoir une carrière télévisuelle donc à Paris, mais c'était quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Donc peut-être dans une autre vie, on retrouvera un scénariste comme Michel Jury.
Et je me demande si on pourrait éventuellement, il y aurait d'autres thématiques à aborder, mais j'aimerais qu'on se tourne prochainement vers le public. J'aimerais qu'on s'interroge justement dans ce qui, alors en faisant le lien avec cette question des thématiques, ce qui des thématiques qu'il a abordées, de ce qu'il a fait dans ses livres, ce qui peut d'une certaine manière s'accrocher nettement à des traditions ultérieures, enfin à des mouvements ultérieurs, et ce qui fait qu'il y a une actualité de Michel Jury. Et je dirais, enfin, par exemple, hein, vraiment à titre d'exemple exploratoire, qu'il y a tout de même une lignée possible entre ce que fait Jury, notamment dans sa vision du capitalisme des multinationales, ou dans certaines de ses réflexions sur l'informatique, l'ordinateur, les intelligences artificielles, dans certains romans, qui me semble pouvoir très nettement s'accrocher avec la mouvance du cyberpunk ensuite, et qui résonne encore aujourd'hui avec d'autres œuvres. Comme je le disais pour Jacques Barbéry, il y a une résonance qui passe aussi par l'intermédiaire de Philippe Dick, évidemment, mais sur une réflexion sur la réalité notamment, et pour Raphaël Granier de Cassagnac, il y a clairement un questionnement sur justement la nature du temps, la question de l'existence dans un autre temps, ce temps de l'éternité, par exemple. Mais d'une manière générale, et sans forcément parler de vos œuvres spécifiquement, il me semble qu'il y a un fil à tirer.
Oui. Très, très brièvement, il y a un point qui n'a peut-être pas été suffisamment évoqué jusqu'ici, c'est que Jury, Michel, était très, très curieux de science et qu'il avait une très bonne culture scientifique. Il a parlé des fractales, ça a vraiment nourri toute une partie de la physique quantique. Moi-même, qui me pique de science, et plus spécialement d'intérêt pour la physique quantique, sans malheureusement avoir accès au formalisme mathématique, mais en connaissant assez bien les concepts, j'ai eu avec lui de très longues conversations très, très utiles. Donc il avait une culture scientifique qui dépassait de très loin celle de beaucoup d'auteurs de science-fiction français et surtout celle du grand public. Et il savait en juger, en user.
Alors... C'était un grand lecteur de Jacques Ellul aussi. Voilà.
Je ne sais pas, la comparaison que tu as faite est hyper flatteur et sans doute très exagérée. Mais oui, alors il y a un truc que j'avais pas vu le petit film et certains des extraits. Il y a une ou deux choses qui ont résonné beaucoup avec ma façon d'écrire dans ce qu'il disait, en particulier le fait qu'il s'inspirait de toutes petites choses, comme il dit à un moment là, de toutes petites choses prises ici ou là, dans le quotidien. Donc les petits indices, en particulier son histoire de on connaît pas le pays là, qui est. Et donc ça, c'est un processus que moi j'utilise beaucoup, c'est regarder dans les médias qui en plus aujourd'hui sont, on a accès à tout et à n'importe quoi aussi, de repérer comme ça des petits trucs où on se dit ah ça demain ça ira beaucoup plus loin, des choses comme ça. Donc à ma toute petite échelle, c'est la résonance que j'ai trouvée avec avec le petit film. Et sur les thèmes, bah, oui, tu disais, il était féru de science. À mon avis, il était féru de tout. Enfin, c'est ça qui me. Il a une curiosité pour tout. Il avait une espèce de connaissance. Alors, sans doute pas profonde, mais c'est très important et intéressant d'avoir une connaissance comme ça, un peu transverse de tout, pour faire des tisser des ponts, faire des liens entre des choses qui, en principe, sont assez peu mises en connexion, quoi.
Jacques Barbéry. Oui. À Gérard, en tant qu'éditeur, sur s'il pense qu'un roman de la complexité du temps incertain, l'ambition formelle, etc., pourrait être publié aujourd'hui. Trouverait un éditeur de SF qui le publierait.
Si j'en recevais un de cette qualité, la collection Ailleurs et Demain existant toujours, je le publierais sans hésiter. Je ne sais pas quel écho il aurait, parce que ça, on ne le sait jamais qu'après. Mais en tout cas, je le publierai. D'ailleurs, en passant, une des raisons pour lesquelles Ailleurs et Demain semble en sommeil, c'est parce que le public s'étant rétréci, je ne peux plus financer, je ne peux plus obtenir le financement de traduction. Mais en revanche, je peux tout à fait publier des romans français sans pouvoir promettre autre chose que la gloire avec une toute petite fortune aux auteurs qui se présenteraient. Donc oui, je le publierai. Alors quel serait l'écho aujourd'hui ? La restriction du marché, il faut bien parler marché ou du public de la science-fiction de qualité telle. Si vous voulez, à l'époque du temps incertain, nous ne vendions jamais un titre en dessous d'une dizaine de milliers d'exemplaires dans Ailleurs et Demain, ce qui n'était pas colossal pour un éditeur comme Robert Laffont. Mais enfin, ce qui permettait de continuer et de voir l'avenir avec optimisme. Aujourd'hui, on ferait plutôt 1000 ou 2000 exemplaires. Alors ça, c'est beaucoup, beaucoup plus inquiétant. Et il n'y aurait pas non plus le soutien qui était important à l'époque des collections de poche qui ensuite passaient à 50, 100 000, etc. Cela étant, je me répète, si je reçois un manuscrit de cette dimension, je saurais bien... convaincre Cécile, la PDG actuelle de Laffont, de le publier.
Donc l'appel est lancé. Alors, de ce point de vue-là, nous avons le temps pour une, deux questions. Est-ce qu'il y a parmi vous des interrogations qui demeurent ? Il y a une question ici.
Pendant votre cours du soir, Natacha, vous aviez dit que Jury disait que ces fictions étaient des fictions quantiques. Comme il y a plusieurs personnes autour de vous, peut-être qu'on aurait... leur interprétation de ce que Jury a dit.
Donc parlant de fiction quantique pour ces textes, est-ce que effectivement vous avez une réaction à cette idée ? Est-ce que ce terme, cette expression a sens pour vous ?
Je crains que la théorie de la fiction quantique ne soit pas encore complètement au point. Mais je vois très bien ce que Michel voulait dire. Ce monde quantique, qui a d'ailleurs beaucoup évolué depuis les années 70 quand il écrivait, pas dans son fond, mais dans ses manifestations. La non-localité, par exemple, ça l'aurait fasciné, ou ça l'a fasciné probablement. Donc il évoluait là-dedans. Il y a une dimension très importante dans l'œuvre de Michel, c'est qu'il y a peu de certitudes. Or, l'univers quantique est un univers de probabilité. Donc il avait, alors c'est peut-être ce qu'il voulait dire en parlant de monde quantique.
Tu avais parlé, Gérard, de roman, mais d'ailleurs c'était le cas pour Les Seigneurs de la Guerre aussi, ton propre roman,
oui.
De roman probabiliste.
Oui.
Voilà. Donc un roman en fait dont le fonctionnement tant narratif que thématique se fonde sur la probabilité.
Oui, il y a une mise en question du déterminisme, de la causalité ordinaire.
Jacques Barbéry.
Oui, non, à propos de fiction quantique, c'est par rapport à Jury, c'est peut-être au niveau justement de la structure de ces récits. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, et à propos de la non-localité, là, il y a un effet de non-localité au niveau de la structure des récits de Jury. Et là, peut-être, c'est à ce niveau-là que se situerait la fiction quantique, en fait.
Bien, c'est sur la fiction quantique que nous allons achever cette table ronde. Merci beaucoup à nos participants, que vous pouvez retrouver en dédicace immédiatement. Et donc, un dernier hommage à Michel Jury, qui donc nous a quittés au début de l'année. Bien. Merci à tous.